Chers frères et sœurs, bonjour. Ah, qu'il fait bon être un peuple. Qu'il fait bon avoir des frères et des sœurs dans la foi, de vivre plus souvent qu'à son tour des relations chaleureuses avec eux. Qu'il fait bon faire partie d'un peuple nombreux, présent dans le monde entier, dont le chef suprême, au-delà de nos confessions, de nos clivages, est le Christ lui-même. Qu'il fait bon être membre de l'Église universelle, qui a devant elle un avenir tout tracé dans la grâce et la lumière de Dieu. Qu'il fait bon répondre ensemble à l'appel divin, qu'il fait bon trouver ensemble auprès de Dieu des richesses que notre monde ne peut donner. Notre vie d'Église s'arrête-t-elle là, à se réjouir ensemble de ce que nous pouvons vivre comme peuple? Dieu s'est-il fait un peuple dans ce monde uniquement pour que nous nous sentions bien? Dieu s'est-il fait un peuple qui soit si saint, c'est-à-dire que Dieu l'a pris pour son peuple, si saint donc qu'il soit coupé de ce monde? Les chrétiens décrivent le peuple de Dieu comme l'Église universelle, confession de foi vieille de siècles et de siècles, ou comme l'Église invisible, dit-on en théologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir dans son ensemble. Non qu'elle soit cachée, mais il est impossible de la voir dans son intégralité, tant pour des raisons géographiques que pour des raisons de discernement. Tant de pays du monde, tant de personnes dont seul Dieu connaît l'appartenance à ce peuple, tant d'autres qui font semblant d'y appartenir et qui, au fond de leur cœur, n'y appartiennent pas. Comment discerner quelle est l'Église visible, invisible ou universelle? Ceci dit, il faut que l'Église, telle qu'on ne peut pas la voir dans son intégralité, soit quand même visible dans ce monde. Et c'est un de nos rôles, de rendre visible l'invisible, de manifester l'œuvre de Dieu à notre place, là où nous nous trouvons. Si Dieu nous a appelés en tant qu'Église, en tant que communauté dans ce monde et en tant que communauté locale, c'est que nous y avons notre place. En ce moment, nous sommes dans un cycle d'études depuis la rentrée qui s'appelle « L'Église et moi ». Et le 10e thème de ce cycle d'études s'appelle « À quoi servons-nous ?» la fonction de l'Église dans la société. Alors, on n'a pas tellement l'habitude de poser cette question, à quoi on sert? L'idée est inhabituelle, la question habituelle c'est plutôt qu'est-ce que l'Église? Par qui est-elle constituée? Comment fonctionne-t-elle? De quelle vie vit-elle? De qui est-elle composée? Etc. Mais nous nous intéressons depuis la rentrée scolaire, dans ce cycle, l'Église et moi, à des aspects pratiques de l'Église, pragmatiques même, quotidiens, prosaïques parfois, et non à la doctrine chrétienne de l'Église, si intéressante et utile soit-elle. Ceci dit, la différence n'est pas toujours nette entre une doctrine de l'Église et la pratique de l'Église, et c'est heureux. Bien sûr que je ne cherche pas à faire une séparation trop nette. Ceci dit, nous avons quand même résolument choisi une approche pragmatique. Et donc la question se pose, à quoi on sert? C'est une question que nous devons nous poser, car les gens autour de nous nous la posent, finalement. Vous les chrétiens, ça vous sert à quoi? Ça sert à quoi une église dans la ville de Mulhouse? En tant que protestant évangélique, nous dirons assez naturellement, je pense, qu'une Église sert à proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans ce monde. Lors de mes voyages à Paris, de temps en temps, je pense, je ne suis pas le seul à aller à Paris, il y a une station de métro qui s'appelle Bonne Nouvelle. J'ai dit, ils sont quand même sympas d'avoir mis une station de métro au nom de notre Église. Hein. J'aurais pas dit quand même. Alors, c'est pour d'autres raisons qu'elle s'appelle Bonne Nouvelle, bien sûr. Mais cela nous fait penser que nous avons, c'est dans nos gènes évangéliques de parler de cette bonne nouvelle à nos contemporains et d'être bavards sur ce sujet. Jésus, d'ailleurs, a dit, c'est une des dernières paroles, celle qui est rapportée dans la fin de l'évangile de Matthieu, « Faites de toutes les nations des disciples ». Mais avant de foncer tête baissée dans la mise en œuvre de cet appel si important, cette grande mission dont nous avons parlé mercredi dernier, pour ceux qui étaient là, observons la personne qui lance cet appel, Jésus-Christ. Lui aussi a fait des disciples, n'est-ce pas ? Lui surtout a fait des disciples. Et avant tout, et avant tous, que devons-nous apprendre de lui ? Je vous propose ce matin trois épisodes du ministère de Jésus-Christ, ou trois ou quatre, qui devront nous servir d'exemple. Premièrement, tout sera dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 5 de Matthieu, donc c'est un extrait du sermon sur la montagne. Il commence à dire au chapitre 5, donc verset 20, « Je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, la condition est, enfin, il y a presque une menace là. La condition est toute simple. Il faut faire mieux que les autres. Obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi, que les chefs religieux de l'époque. Il faut se dire, sans tomber dans un quelconque orgueil, il faut se dire qu'en tant que chrétiens, nous avons quelque chose à apporter. Nous avons, dans cette société, quelque chose à dire et à apporter. Retenons, par exemple, les propos qui suivent, un des propos qui suit de Jésus au verset 43. Vous savez, cette petite phrase que Jésus dit, « Mais moi, je vous dis », nous enseigne que Jésus savait ce qu'il se disait, il va en citer un exemple, et Jésus apporte quelque chose de son fond à lui. Et il dit, ben, voilà ce que je pense, et voilà ce qu'il faut faire si vous voulez être mes témoins. Alors, verset 43, vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Alors ça, c'était on ne trouve pas dans le Premier Testament, mais on trouve ces paroles dans les sentences rabbiniques qui avaient cours, à l'époque de Jésus. Tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Et voilà cette phrase. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner ? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Alors quand je lis ce texte, je sais qu'il y a une employée des impôts dans la salle, donc ça me gêne toujours. Mais bon, il faut le mettre dans son contexte de l'époque, hein, s'il te plaît, Liliane. Voilà. Verset 47. « Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, écoutons bien cela, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire ? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose. Font la même chose que vous. Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Vous avez lu ? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Que faisons-nous à la sortie du culte ? Nous saluons seulement ceux que nous connaissons peut-être. Nous ne faisons rien de mieux que les gens qui ne connaissent pas Dieu, dit Jésus. Jésus appelle ses auditeurs ici à briser le mécanisme de la violence, puisqu'il est dit d'aimer ses ennemis et non pas de les détester. Briser le mécanisme de la vengeance. Jésus-Christ appelle ses auditeurs à changer le regard porté sur les ennemis. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant qui, vu ce contexte, m'a fait sursauter. Face à mes ennemis, alors maintenant, je ne sais plus la suite. J'élève ton nom, je crois. C'est un chant qu'il faut chanter avec précaution. Oui, merci, Wolf. Mathieu est en forme ce matin. nous élevons ton nom, merci Mathieu. Aimons nos ennemis. Je ne sais pas qui sont les ennemis auxquels l'auteur de ces paroles a pensé. Aimons nos ennemis. Ce n'est de loin pas facile. C'est un défi que parfois on met des années à relever. Quand quelqu'un nous a fait du tort, quand on a été blessé, victime de quelque chose, ce n'est pas du tout facile. Mais voilà l'ordre que Jésus dit. Si vous voulez être vraiment les enfants de votre Père céleste, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà un enseignement que Jésus a donné. Nous aussi et nous tous, en tant que disciples de Jésus-Christ et en tant que communauté, que peuple de Dieu, notre comportement en société est important. Il doit être empreint de la grâce de Dieu. Il y a quelques années maintenant, nous avons été dans des relations très complexes avec la ville de Mulhouse concernant nos bâtiments. Même s'ils ne sont pas aussi grands que d'autres, cela avait préoccupé aussi quelques services de la ville, puisqu'il y avait cette question de démolir nos bâtiments, etc. En tant que responsable au niveau administratif, nous avons été quelques-uns à dire « Attention, soyons en tant que communauté témoins de la grâce de Dieu jusque dans ses relations avec la ville », qui parfois, on parlait de dizaines et de centaines de milliers d'euros. Alors, d'un côté, nous voulions défendre nos petits intérêts, enfin petits, et de l'autre, être témoin. Et tout ça s'est terminé dans un restaurant, où nous avons été invités à quelques-uns parce que, justement, la ville voulait nous remercier pour la qualité des relations que nous avions développées avec eux. Je ne fais pas l'apologie du restaurant, mais c'est simplement pour dire qu'en tant que communauté, il y a des moments où nous devons suivre notre maître, aimer, alors là il ne s'agissait pas d'ennemis, mais aimer les personnes que nous avons face à nous et parfois face dans des négociations, dans des relations difficiles. Dans notre manière de parler de l'Évangile, soyons aussi de ceux qui aiment les gens. Tout simplement. N'assénons pas des discours en forme de massue, mais tendons des mains, ouvrons nos cœurs, aimons celles et ceux qui nous entourent, et ne tombons pas dans cette critique qui, une fois qu'elle est dite, semble presque évidente. Si vous saluez seulement vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Et après, vous allez chanter des cantiques comme si vous étiez... J'ajoute cette dernière phrase. Jésus ne faisait pas qu'enseigner cela, il l'a montré. Quand il disait « Aimez vos ennemis », Jésus, lorsqu'il a été crucifié, a invoqué le pardon de Dieu, son Père céleste, sur les bourreaux qui étaient en train de le crucifier. Nous aussi, nous devons montrer l'exemple. Nos relations en Église doivent être un exemple montrable de la grâce de Dieu, de la manière de vivre à laquelle Dieu nous appelle, doit être une manifestation visible de l'Église invisible. Le respect que nous avons les uns pour les autres, pour les hommes, pour les femmes, la patience et la bonne volonté, la fraternité, les égards, le savoir-vivre, toutes ces choses, nous devons les vivre pleinement, avec cette lumière qui vient de Dieu, cette notion de la fraternité. L'autre est aussi créature de Dieu, est aussi enfant de Dieu, même s'il est différent, si elle est différente de moi. Nous avons la responsabilité de faire voir, par notre vie d'Église, ce qu'est l'Église invisible. Ce n'est là encore pas toujours facile. Nous avons nos difficultés relationnelles, nous avons nos défauts. Mais si nous voulons être l'Église de Jésus-Christ, voilà une de nos responsabilités. Jésus n'a pas toujours été tendre avec ses contemporains. Toujours dans l'évangile de Matthieu, il y a quelques-uns de ces discours qui sont plus des discours, qui sont des diatribes, des accusations. Et j'aimerais citer le chapitre 23. Vous savez, ces fameux « malheur à vous ». C'est le même Jésus qui a dit « aimez vos ennemis » et qui là va dire « malheur à vous ». À qui dit-il cela ? Prenons par exemple les versets 25 et 26. Il dit cela, et c'est répété tout au long du chapitre, aux maîtres de la loi et aux pharisiens, donc des chefs religieux et les pharisiens étaient une tendance très prononcée à l'époque de Jésus, avant et après, et qui insistait sur le respect de la Torah, la pratique de la Torah, entre autres. Je vais lire le verset 25. « Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur du plat, et alors l'extérieur aussi deviendra propre. » Alors Jésus fait une leçon de vaisselle, en quelque sorte, très dure. L'intérieur de ces gens, sous un extérieur très religieux, c'est du vol et de la spoliation, arraché aux gens. Jésus prend la défense, ici comme à plusieurs autres endroits, des personnes plus vulnérables. Il interpelle et il dénonce avec énergie, c'est d'où cette énergique « malheur à vous ». Il dénonce le mal avec énergie et parfois, en tant que chrétiens, nous devons le faire aussi. En tant que communauté, nous devons le faire. À combien de reprises les chrétiens, quelles que soient les confessions, nous évangéliques au travers du Conseil national des évangéliques de France, mais d'autres aussi, tant l'Église, la Fédération protestante que l'Église catholique, que d'autres encore dans d'autres pays, dénoncent régulièrement soit des intérêts matériels démesurés, une société de consommation qui va puiser et épuiser les ressources naturelles, soit les violences commises au nom de la religion ou au nom d'un tel ou tel régime politique, soit encore d'autres choses. Il faut savoir dénoncer, en tant qu'Église de Jésus-Christ, il faut savoir dénoncer les choses qui ne vont pas dans ce monde, comme Jésus l'a fait. Souvenons-nous que l'abbé Pierre a commencé comme ça. Et on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la fondation abbé Pierre. Et tous ces établissements qui sont ouverts parce qu'un homme, un jour, a dénoncé le scandale de laisser des gens mourir à la rue. Les exemples seraient légion. Martin Luther King, pour reprendre un sujet qui malheureusement est toujours actuel, hein, sur le racisme, a dénoncé la ségrégation raciale aux États-Unis et l'a payé de sa vie d'ailleurs, etc. La liste serait trop longue, mais belle, tristement belle, parce que ce qu'on dénonce, ce sont des choses qui sont mauvaises. Et les chrétiens ont longtemps et souvent dénoncé des choses qui devaient l'être dans ce monde. Et ne gardons cette voix qui, de temps en temps, se fait entendre et doit se faire entendre. Plaise à Dieu qu'elle soit entendue. Voilà donc la première des idées que je voulais vous donner. C'est cette idée que Jésus a donnée par la parole et par l'exemple, la meilleure manière de vivre qui soit. À nous de faire la même chose, en tant que communauté de Jésus-Christ, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Jésus a enseigné par la parole et par l'exemple, donc, mais il a aussi fait, et cela a été souligné dans les éléments du culte qui ont précédé la prédication, le bien qu'il a fait autour de lui. Il a fait du bien. J'ai repris les évangiles assez longuement cette semaine pour me préparer, et j'étais de nouveau frappé par le nombre de guérisons que Jésus a faites, qui sont racontées dans les évangiles. Ce sont les miracles les plus nombreux, les guérisons. Il y en a d'autres, mais... Alors je vous propose un miracle, très connu d'ailleurs, mais je l'ai retenu pour une raison que je vous expliquerai. C'est le chapitre 9 de Matthieu, verset 1. C'est l'histoire d'un homme paralysé. Il y a quelques personnes qui sont autour de lui, et je vais prendre au verset 3 pour gagner un peu de temps. Quelques maîtres de la loi se mettent à penser. Cet homme insulte Dieu, parce que Jésus avait dit à ce paralysé, « Reprends courage, tes péchés sont pardonnés. » Les maîtres de la loi disent, « Cet homme insulte Dieu, car il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. » Jésus sait, je reprends la lecture, Jésus sait ce qu'ils pensent et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. » Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. L'homme se lève et il rentre chez lui. Quand les foules voient cela, elles ont peur, bien sûr. Elles disent, gloire à Dieu, bien sûr aussi. Il a donné un très grand pouvoir aux hommes. Ici, la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte, c'est qu'il n'y a pas qu'une guérison, il y a aussi la notion du péché. Tes péchés sont pardonnés. En même temps que cet homme retrouve la marche, il trouve aussi la liberté. Le sens des miracles des évangiles de Jésus, c'est d'être des signes qui atteste que Jésus est bien l'envoyé de Dieu, le Messie, mais des signes aussi de la bonté de Dieu. Les miracles font du bien. À la place du paralysé, à la place de toutes ces personnes qui ont été guéries, qui ont pu manger à leur faim, etc. Jésus a fait du bien. Nous aussi, en tant que communauté, nous devons faire du bien. Faire du bien autour de nous. Même si nous ne pouvons pas guérir comme Jésus a guéri, encore que, il y a des guérisons aujourd'hui tout à fait que nous devons attribuer au Seigneur et lui rendre gloire pour cela. Mais prenez par exemple dans Matthieu 25, vous savez ce chapitre où Jésus dit « Venez à ma droite, vous qui avez... » fait du bien à vos semblables, et notamment visiter les malades. Il n'est pas dit « guéris les malades » à cet endroit-là. Il est dit juste « visiter ». Au moins ça, chers amis, même si nous ne pouvons pas les guérir, parce que les choses sont ainsi faites, le Seigneur peut le faire, mais ne le fait pas toujours. Au moins, ce que nous pouvons faire, c'est les visiter. C'est faire quelque chose à notre portée. La foi chrétienne, et c'est le sens du chapitre 25 de Matthieu, la foi chrétienne n'a de sens que dans l'action. Que si elle se traduit dans l'action, elle est vivante seulement lorsqu'elle agit. Comme Jésus l'a fait, qui a fait du bien autour de lui. Traduisons notre foi en Jésus-Christ, en tant que communauté, en montrant l'amour de Dieu par des actes. Il ne s'agit pas de trouver des prétextes pour évangéliser, c'est-à-dire faisons du bien et ainsi nous attirerons des fidèles. Il s'agit de faire du bien comme un signe de l'amour de Dieu autour de nous. En tant qu'Église, nous avons de multiples manières, et j'en souligne une, et j'y suis un peu impliqué, c'est le partenariat avec une association d'action sociale. Nous soutenons, nous aidons, nous proposons nos locaux, nous accompagnons quelques personnes, voilà du bien qui est fait par notre Église, d'une manière modeste, certes, mais réelle. Et ces exemples sont à multiplier grandement et ont jalonné l'histoire de notre pays. Depuis des siècles, les églises se sont mises à plus d'une reprise à répondre aux besoins de la société. Faisons du bien en tant qu'église de Jésus-Christ, car Jésus-Christ, notre maître, a fait du bien aussi autour de lui. Je termine par un troisième petit texte de l'évangile de Matthieu toujours. Et c'est Matthieu qui est concerné, l'homme, Matthieu, au chapitre 8, verset 9. Quand Jésus a dit à Matthieu, « Suis-moi ». Jésus a appelé ses 12 disciples, il a appelé d'autres personnes, des femmes notamment, qui sont citées, d'autres hommes aussi que les 12. Et d'ailleurs, au début du livre des Actes des Apôtres, les personnes qui étaient réunies dans la chambre haute étaient au nombre de 120. Donc c'est un peu plus que les 12, hein. Alors, Matthieu, chapitre 8, verset 9, quand Jésus a appelé Matthieu. Je crois que je me suis trompé de référence, pardon. C'est un peu plus tôt. Bon, tant pis, je ne vais pas perdre trop de temps. Matthieu était en train de faire son travail de collecteur de taxes, et il a vu ce Jésus venir, et Jésus lui a dit « Suis-moi ». Il ne s'agissait pas de suivre Jésus qui allait lui montrer quelque chose, il s'agissait d'une suivance, d'être disciple de Jésus-Christ, de s'attacher à lui, de suivre son enseignement et d'imiter son exemple. Jésus attendait que les gens s'engagent derrière lui, et les 120 qui sont dans la chambre haute s'étaient engagés auprès de lui, sinon ils ne seraient pas réunis au moment de la mort de Jésus-Christ. Nous aussi, en tant qu'Église, chers amis, nous devons être des suiveurs de Jésus-Christ. Mais nous devons aussi appeler les gens à être des suiveurs de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas que, à imiter Jésus, nous disions « suis-moi » ou « suivez-nous ». Mais nous les invitons à rejoindre cette suivance de Jésus-Christ. Il nous faut être un lieu, en tant qu'Église, où l'on peut s'engager à suivre Jésus-Christ et où l'on est appelé à le faire. Nous devons être un moyen par lequel les gens peuvent comprendre qu'ils sont appelés par Jésus-Christ à le suivre. Qui d'autre appellera des disciples dans ce monde, sinon les églises, des disciples de Jésus-Christ? C'est notre travail d'église d'appeler des disciples, des hommes et des femmes qui suivront à leur tour Jésus-Christ. Notre communauté doit faire envie à ces personnes pour qu'elles le fassent. Elle doit leur donner envie de suivre Jésus-Christ. Notre communauté doit porter le fruit de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs à tous. Notre communauté doit être une communauté, et toutes les autres, doivent être une communauté de joie, de paix. Elle doit être pertinente dans ce monde. Elle doit être solide. Parce qu'elle doit faire écho à cette phrase de Jésus-Christ, « Suis-moi ». Et dire, « Suivez Jésus-Christ ». Nous devons nous remettre en question. Si notre Église n'est pas capable de faire entendre cette voix, suivez Jésus-Christ. Si elle est tellement engoncée dans toutes sortes de problèmes, de médiocrité, de tiédeur, que cette voix n'est plus audible dans la société dans laquelle nous sommes, alors nous devons nous remettre en question. Nous ne faisons pas notre travail d'Église de Jésus-Christ dans ce monde. Si notre évangélisation est trop faible, si la voix que nous faisons entendre n'est pas audible, nous ne sommes pas Église de Jésus-Christ qui lui a dit « Suis-moi » et qui a fait de nombreux disciples. Grâce à Dieu, nous le sommes, au moins pour partie. On ne peut jamais prétendre à la perfection, mais que Dieu bénisse toutes ces actions que nous faisons, où nous essayons de faire, où nous publions cet appel de Jésus-Christ à devenir ses disciples. J'arrête là mes quelques lectures des évangiles, de l'évangile de Matthieu. Je rappelle simplement les trois points que je vous propose de retenir. Jésus propose la meilleure manière de vivre qui soit. Proposons-la de même en tant que communauté. Jésus a fait du bien autour de lui. Faisons de même du bien autour de nous. Jésus a appelé des disciples Faisons de même, appelons aussi des disciples dans ce monde. Il s'agit en fait d'une facette, de plusieurs facettes d'une réalité unique, qui est celle tout simplement d'une vie dans l'Évangile, d'une vie dans la grâce de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés en tant que communauté. La suite, étude biblique et groupe de maison pour ce thème numéro 10 de notre sujet, à quoi servons-nous en tant qu'Église dans ce monde ? Amen.